Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 5 février de l'an 2026. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui s'appelle Elbit System, un fabricant d'armes israélien qui est au Royaume-Uni, qui avait pas mal de contrats, et une action de militants pro-palestiniens qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans, une grève de la faim qui s'en est en suivie, et la relaxe de certains de ces militants, c'était à Bristol. On va parler de la caravane pour le Rojava qui vient d'être arrêtée à la frontière turco-syrienne. On va parler d'attaques répétées sur les librairies indépendantes, notamment de la part de l'extrême droite. Une tribune qui vient donc d'être publiée par justement les acteurs et actrices de ces médias. Et on parlera aussi encore d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci pas d'intelligence artificielle qui parle entre elles, mais de celles qui menacent le métier de doubleur de télévision, de série, de cinéma. C'est en Angleterre donc que commence ce tour des nouvelles du monde. Un jury britannique vient d'acquitter 6 militants qui étaient poursuivis pour une action menée contre une usine de Elbit Systems. On est à Filton, à côté de la ville de Bristol. Ces activistes étaient entrés donc par effraction sur le site, les bureaux de l'entreprise et avaient causé des dégâts matériels afin de dénoncer la production d'armes destinées à l'armée israélienne. Malgré des faits donc de violence reconnus, les jurés ont refusé de prononcer une condamnation pénale. Ils ont estimé que cette action relevait d'un acte de protestation politique et non d'une criminalité de droit commun, voire de terrorisme comme cela avait été qualifié au début. On peut remonter en arrière un petit peu donc avec ce procès qui est mené à la base contre 24 membres de Palestine Action, donc un mouvement de solidarité pour la Palestine. C'était au mois de novembre de cette dernière année. Le 18 novembre, plus exactement, le lundi, débutait ce procès donc devant la cour de Woolwich en Grande-Bretagne. Les 24 militants étaient poursuivis pour des actions commises dans les bureaux de la firme israélienne d'armement Elbit System en août 2024, donc dans la commune de Filton. La presse les a d'ailleurs baptisés les 24 de Filton, The Filton 24. Ces 24 prévenus, donc d'anciens militants de l'association, l'ONG, je ne sais pas, Palestine Action, pénétrés en août 2024 dans les bureaux, ils auraient causé pour 1 million de livres de sterling de dommages chez donc dans les bureaux de ce qui est le plus grand producteur israélien d'armes. Et ce, donc notamment en détruisant pas que des bureaux, mais aussi des drones quadricoptères utilisés par l'armée israélienne. Le procès qui vient d'avoir lieu ne concerne que 6 de ces militants sur les 24 arrêtés, mais il a concentré toute l'attention du public en Grande-Bretagne ainsi qu'au niveau international. Pour cause, à la base, les autorités britanniques ont choisi d'utiliser la loi anti-terrorisme pour poursuivre ces militants pro-palestiniens. Les charges ont retenu, c'était cambriolage aggravé, destruction et actions violentes. Certaines de ces personnes ont passé donc plus d'une année en prison, en préventif, donc, puisqu'ils n'avaient pas encore été jugés. Toutes ont plaidé non coupables et ont entamé d'ailleurs une grève de la faim en prison. Le procès qui vient d'avoir lieu pour ces 6 premiers a duré 10 semaines. Et il faut voir qu'aussi en parallèle de ça, du 25 au 27 novembre, la Haute Cour royale examinait en parallèle un recours déposé contre la dissolution de l'association donc Palestine Action, recours déposé par la cofondatrice qui s'appelle Houda Amori. On lisait aussi ce 26 janvier qu'après 73 jours de grève de la faim pour les plus déterminés de ces militants de Palestine Action, le gouvernement britannique venait justement d'annuler un contrat d'armement avec la fameuse firme israélienne Elbit. Sous la pression médiatique donc et l'opinion publique, le Royaume-Uni annulait un contrat de 2 milliards de livres sterling avec cette entreprise. Ce contrat aurait permis à l'entreprise d'armement israélienne de former 60 000 soldats britanniques par an. Cette firme avait remporté plus de 10 marchés publics depuis l'année 2012 au Royaume-Uni. Elbit Systems, c'est donc le plus grand fabricant d'armes privées d'Israël. Il fournit par exemple 85% des drones et la plupart des équipements militaires terrestres qui sont utilisés par l'armée israélienne. Elbit vend aussi des drones à Frontex, donc pour l'Europe. Frontex dont la mission est de traquer les exilés aux portes de l'Europe. En 2024, ainsi, Elbit se félicitait d'une hausse de ses ventes de drones et des commandes, le tout atteignant 22,1 milliards de dollars, 66% provenant donc de clients étrangers. La perte donc de ce gros contrat là, il y a quelques jours avec la Grande-Bretagne représente une sérieuse perte économique pour l'entreprise, mais aussi une défaite en termes d'image. Et surtout, ça marque la fin d'années de juteux partenariats avec le Royaume-Uni. Elbit Systems a d'ailleurs aussi été suspendu par l'agence d'approvisionnement de l'OTAN, et ce dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fraude, de corruption et de manipulation de contrats stratégiques. C'était l'été dernier. Voilà un petit peu donc pour vous brosser le portrait de cette entreprise. Et si on revient donc sur les militants dont 6 viennent d'être acquittés, je vous le disais, ils avaient entamé une grève de la faim puisqu'ils étaient détenus sans avoir été jugés. Hein. Les plus acharnés tenaient donc depuis 73 jours sans s'alimenter. C'est donc la plus grande grève de la faim de prisonniers politiques au Royaume-Uni depuis celle des indépendantistes irlandais. C'était sous Margaret Thatcher. Vous vous rappelez peut-être, c'était en 1981 et cette grève de la faim qui avait été justement laissée faire par Margaret Thatcher avait conduit à la mort de Bobby Sands et de ses camarades. Le prix à payer d'ailleurs quand on fait une grève de la faim est terrible hein, puisque les prisonniers là, dont je vous parle pour Palestine Action souffrent désormais de lésions neurologiques permanentes, de problèmes cardiaques et d'une maladie chronique à vie. Et le tout, je le rappelle, sans jamais avoir été inculpé ni condamné, puisqu'il s'agissait d'incarcération préventive sous couvert d'antiterrorisme. En tout cas, cette victoire et cette relaxe de ces 6 militants entraînent l'arrêt de la grève de la faim pour les détenus de ce collectif. Et donc les 18 autres, normalement, seront jugés en avril et juin 2026. Mais on sent que le vent tourne un petit peu dans l'opinion publique britannique. On reste dans les soutiens de solidarité internationale avec cette caravane pour le Rojava. Donc le Rojava, c'est le nom de la région autonome du Kurdistan syrien. Une caravane pour le Rojava a été arrêtée ce vendredi 31 janvier à la suite d'une manifestation à la frontière turco-syrienne, au sud de la Turquie, donc avec la frontière qui borde la Syrie. Les participants de cette manifestation devaient bientôt être emmenés à Istanbul afin d'être expulsés de Turquie. Ça s'est passé le 24 janvier dernier. Plus de 120 personnes issues de différents pays européens s'étaient rassemblées devant les locaux viennois, donc à Vienne, du Parti démocratique kurde, le DEM, qui s'est expatrié en Autriche. Ces personnes qui manifestaient avaient ensuite pris la direction à pied de la ville de Kobané, en Syrie, pour soutenir les Kurdes de cette région semi-autonome du nord-est du pays, qui sont maintenant attaqués par le nouveau pouvoir en place en Syrie, je vous en ai déjà parlé. Le but est bien alerter l'opinion publique et les médias au plus près de cette enclave assiégée. Et qui est assiégé de fait aussi avec la complicité de l'État turc hein, qui depuis longtemps veut étouffer toute possibilité d'indépendance des Kurdes. Durant la manifestation donc, qui a eu lieu le 31 janvier, elle se tenait à Pirsus, c'est la ville de Suruç en turc, une critique de la communauté internationale pour son soutien au gouvernement de transition islamiste de Damas et une demande d'aide immédiate pour la population du nord et de l'est de la Syrie a été formulée. C'est ce qu'explique l'équipe de cette caravane pour la défense de l'humanité qui a organisé ce mouvement. Au total, 29 jeunes issus de différents pays d'Europe, dont la France, ont donc été arrêtés par la police turque sur la route de Kobané. 2 jours plus tôt, d'ailleurs, 19 personnes avaient elles aussi déjà été arrêtées près de la ville turque de Mardin, on est aussi pas loin de la frontière syrienne, avant d'être elles expulsées vers l'Allemagne. Certains participants de cette mobilisation ont d'ailleurs rapporté avoir subi des violences et des actes de torture durant leur détention, assure la caravane dans un communiqué. Allez, une histoire de piratage informatique qui va peut-être vous faire sourire. Le White Date, c'est le Tinder des néo-nazis, c'était son nom, White Date, a été hacké et détruit par une militante qui se déguise en Power Rangers Force Rose. Alors, on lit dans cet article rapporté par Contre-Attaque que les suprémacistes blancs ont une obsession, faire plein de bébés blancs et chrétiens, donc, pour sauver la race blanche. comme d'ailleurs Pierre-Édouard Sterrin l'expliquait dans sa conférence au mois de juin dernier. Cette obsession de la natalité n'est pas une nouveauté puisqu'elle tient une place centrale dans l'idéologie de l'extrême droite et ce depuis ses débuts. On nous rappelle que pour l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, l'État français péténiste ou plus proche de nous, la Hongrie d'Orban ou l'Italie de Giorgia Meloni, la natalité est vectrice de l'héritage biologique et culturel. Mais problème, comment se rencontrer entre gens donc visiblement de bonne lignée? Et oui, car il y a moins de gens d'extrême droite, ils font surtout beaucoup moins de manifs et la fête visiblement pour se rencontrer que les gauchistes. Alors une de ces personnes a eu la bonne idée donc de créer l'équivalent d'un Tinder pour donc les suprémacistes. Ça s'appelle White Date, donc rendez-vous blanc. Cette jeune néo-nazie se nomme Christiane Horn, elle est allemande. Parmi des critères à cocher sur cette appli, son sexe, son âge, mais aussi si on est pro-white, traditionalisme, ethno-nationalisme ou bien encore national-socialisme. Oui, carrément, ça c'est nazi. Le site comportait 6600 utilisateurs et utilisatrices à travers le monde. Et d'ailleurs, en France, on a la chance de se trouver sur le podium, à la troisième place des pays qui comptaient le plus de gens inscrits sur cette appli. Juste derrière les États-Unis avec 3300 personnes et l'Angleterre seulement 400. Alors, cette Power Rangers Rose, c'est son pseudo, c'est Martha Root. Donc, c'est une hackeuse antifasciste qui se déguise en Power Rangers Force Rose. À la fin de cette année 2025, elle a donc décidé d'infiltrer tout d'abord ce site néo-nazi. Grâce à une IA encore, elle a piégé les suprémacistes en faisant donc converser une IA à sa place, en se faisant passer pour une femme aux valeurs traditionnalistes. Le chatbot correspond donc ensuite avec des dizaines d'individus, elle match, dont elle a matché avec tous ces individus dont elle a extrait quasiment toutes les données, nom, photo, adresse mail, géolocalisation, etc. Et elle les a publiées sur son site créé pour l'occasion qui s'appelle okstupid.lol, en référence à OkCupid. Je vous laisse aller lire, si vous voulez, un petit peu le descriptif des personnes avec qui elle a été en contact. On ne va pas non plus nommer ou raconter des histoires personnelles de ces idiots. Mais en tout cas, le 29 décembre dernier, donc, elle a décidé de mettre en action ses talents de hackeuse et elle a détruit le site en direct. Le tout s'est passé pendant le Chaos Communication Congress, qui est l'un des plus grands congrès autonomes de sécurité informatique. Il se tient à Hambourg, en Allemagne. Ce congrès entendait montrer comment la technologie peut aussi être utilisée dans la lutte contre l'extrémisme. Mais cette pirate ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Elle a supprimé tous les serveurs de White Child, là ça veut dire enfant blanc, et c'est un site qui mettait en relation des donneurs de sperme et d'ovules suprémacistes blancs. Et elle a aussi supprimé White Deal, une plateforme professionnelle raciste, l'équivalent d'un LinkedIn. Sous les applaudissements du congrès, elle s'est exclafée en disant que c'était le pire système de sécurité imaginable. Et donc elle a fait cette destruction en direct sous les yeux de ses camarades. À l'heure actuelle, les données qu'elle a récoltées ont été confiées au Distributed Denial of Secrets, publié sous le nom de White Leaks. Elles sont consultables donc par des journalistes ou des chercheurs. Parmi les membres du site, quand même, un petit peu de statistiques, seulement 14% de femmes pour 86% d'hommes. Et parmi les membres français, une trentaine de femmes contre plus de 300 hommes. Elle plaisante en décrivant ça comme un ratio homme-femme qui ferait passer le village des Schtroumpfs pour une utopie féministe. Il est rappelé d'ailleurs que dans toutes les sociétés occidentales, on assiste à la recrudescence d'idées masculinistes et suprémacistes, et donc évidemment surtout chez les hommes. Ils se sentent menacés par le féminisme. Mais malgré quand même, il faut le souligner, la présence de groupuscules d'extrême droite autoproclamés féministes. On peut parler bien sûr de Némésis ou bien de tout ce qui est tendance tradwife. Une série d'études qui a été publiée dans le Financial Times en janvier 2024 montrait d'ailleurs que les jeunes américaines, donc de 18 à 30 ans, sont de 30 points plus progressistes que les hommes. Les anglaises, elles, de 25 points. Les dernières élections allemandes, d'ailleurs, ont révélé des chiffres assez intéressants. 35% de ces femmes de 18 à 24 ans ont voté pour Die Linke et 14% pour l'AfD, donc qui est l'extrême droite. Et les résultats des hommes sont en miroir inversé pour la même génération. Eux ont voté à 27% pour l'AfD et 16% pour Die Linke, en gros les socialistes, quoi. Donc le parti néo-nazi allemand est arrivé en premier, surtout chez les jeunes hommes. D'ailleurs, pour terminer sur ces sites de rencontres, un jeune membre de White Date s'inquiétait, français d'ailleurs, qu'il n'y ait pas assez de femmes racistes. Il a dit, c'est un étudiant de 22 ans qui est à Lyon, et il a dit « Il n'y a pas beaucoup de racistes de mon âge, c'est peut-être différent ici. En tout cas, je l'espère. » Dur quand même d'être un raciste.
Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre.
Alpha, Rita s'est échappé. On était contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts.
Et tel un robot Power Rangers, ils se sont associés aussi pour mettre leur pouvoir ensemble. C'est une collaboration, un partenariat éditorial qui vient d'être révélé par Reporter, donc le média écologiste, et Street Press, qui lui s'intéresse justement à l'extrême droite. Ils se sont combinés pour justement faire publier des reportages et des enquêtes sur la coordination rurale, et donc ses liens et ses accointances avec des groupuscules d'extrême droite ou bien carrément le RN. Dans les médias, la coordination rurale se dit apolitique et pourtant, certains de ses cadres cultivent parfois des liens avec les membres des partis d'extrême droite ou frais avec la radicalité de cette mouvance. Dans un des articles, il est proposé un focus sur quatre de ses cadres, dont un d'ailleurs, un ancien cadre qui habite dans le coin, à savoir le chef de la Ligue du Midi, Richard Roudier, qui est sur la commune de Sumène et qui a été le chef de la coordination rurale du Gard entre 2010 et 2014. Toujours dans cette collaboration Reporter Street Press, vous est proposé aussi un autre reportage qui montre comment les mobilisations agricoles menées par la CR sont une aubaine pour l'extrême droite, avec des groupuscules radicaux qui s'y invitent, notamment pour mener des actions, et qui organisent parfois complètement conjointement les actions, le tout donc sans que le syndicat ne s'y oppose vraiment. Petit rappel d'ailleurs, dans une manif qui avait été vue, c'était dans le village de Séquestre, dans le Tarn, les blindés dans les cités, pas chez nos fermiers. Voilà, ils voulaient que les flics aillent donc s'occuper plutôt des populations des cités. C'était la banderole d'un groupuscule identitaire qui s'appelle Patria Albiges. C'était le 13 décembre de cette année, enfin en 2025, au cours d'une manif, vous rappelez, quand justement il y avait des blocages pour empêcher l'accès des polices et des vétérinaires aux fermes pour protester contre l'abattage des vaches ordonnées par l'État dans le traitement de la dermatose nodulaire contagieuse.
C'est toujours sur moi que ça tombe, les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste.
On va parler aussi d'autres victimes, justement, de cette montée des idées fascistes, fascisantes. Ce sont les libraires. Et oui, les livres, ça fait toujours peur. Les libraires et le monde du livre lancent donc l'alerte. Car ces librairies sont devenues des cibles dans une guerre idéologique qui fragilise la liberté d'expression. Vitrine brisée, démocratie fissurée. C'est le titre de cet article qui rapporte cette tribune et qui vous l'offre à la lecture dans les colonnes du média Alter Midi. Les libraires, éditeurs, auteurs et collectifs prennent donc la parole dans une tribune pour alerter sur le basculement démocratique en cours. Un matin, une librairie ouvre avec une vitrine brisée, des tags, des menaces, parfois des intimidations répétées. Ailleurs, une rencontre est perturbée, un livre devient motif à dénonciation, des salariés sont pris pour cible. Ces scènes ne sont plus exceptionnelles, elles se multiplient partout en France et dessinent un paysage préoccupant, celui d'espaces culturels attaqués pour ce qu'ils incarnent, à savoir la circulation libre des idées. Ces violences portées par des groupuscules d'extrême droite s'inscrivent dans une guerre idéologique menée à bas bruit, une guerre où l'intimidation tient lieu de débat et où l'autocensure devient un réflexe de survie. Ce qui alarme donc aujourd'hui les libraires, c'est autant cette offensive que la faiblesse des réponses politiques. Dans cette tribune qui a été signée par plus de 500 signataires, on peut lire par exemple « Les libraires ont de la mémoire, ça fait partie du métier. Nous, libraires antifascistes, co-signataires d'une tribune en juin 2024, face au danger imminent que représentait la possible formation d'un gouvernement d'extrême droite, rejoint et rejointe aujourd'hui par les acteuristes de la chaîne du livre, nous souhaitons dénoncer le vandalisme antidémocratique, les atteintes à la liberté d'expression dont certains de nous ont été victimes et qui nous affectent tous dans l'exercice de notre métier, ainsi que le basculement dont elles sont le signe. L'assaut prend différentes formes, rappelle cette tribune. Agression, intimidation, diffamation, dégâts matériels, cyberharcèlement, pression d'élus, etc. Pratiques qui s'inscrivent toutes dans le sillon d'une dégradation de la vie démocratique qui se manifeste notamment par un accroissement de la polarisation partisane. Et il rappelle que depuis plus de 2 ans, ces librairies sont particulièrement affectées par les intimidations liées à l'exacerbation des antagonismes résultant des attaques meurtrières du Hamas, de la recrudescence de la colonisation israélienne dans les territoires occupés et de la guerre génocidaire toujours en cours à Gaza. Les librairies sont ciblées pour divers motifs. Ils donnent des exemples. Hein. La présence d'un photographe et de son livre sur les réfugiés israéliens, c'était aux Jours Heureux à Rosny-sous-Bois. Photographe qu'on a d'ailleurs déjà interviewé ici sur Radio Escapade. Il parle d'un livre de colorial sur la Palestine. Ça, c'était à la librairie Café Violette & Co. à Paris. D'une voix juive critique d'Israël à la librairie Transit de Marseille. D'une rapporteuse spéciale de l'ONU à la Petite Égypte à Paris. L'accueil d'une partie du colloque sur la Palestine qui a dû être annulée par le Collège de France. Voilà, ces vitrines sont soit souillées, taguées ou brisées. Les locaux vandalisés, par exemple à Marseille, Périgueux, Nantes, Paris. Là, voilà, et une liste donc non exhaustive vous est proposée dans cette tribune. À la suite de ces multiples actes de vandalisme, d'ailleurs, les libraires rajoutent la pression économique et politique qui est employée par la droite parisienne. Et par exemple, le 20 novembre dernier, plutôt que de condamner ces violences, le groupe politique de la ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati, profitait de l'absence de la majorité municipale qui était présente au sommet international des maires contre l'antisémitisme et a obtenu ainsi le rejet d'une importante subvention qui était destinée à 40 librairies et avec le seul motif que dans ces librairies se trouvait Violette & Co, donc une librairie qui avait été harcelée et vandalisée cet été et depuis prise pour cible de manière répétée par la droite parisienne, toujours sous le fond de dénoncer eh bien justement la colonisation israélienne. Les attaques dont ils sont la cible et l'instrumentalisation partisane de ces financements dépassent bien la lutte contre l'antisémitisme ou les positions divergentes sur ce conflit israélo-palestinien. Et elles dépassent bien sûr la chaîne du livre, hein, j'en parle régulièrement ici. Ces pressions politiques témoignent d'un basculement toujours plus manifeste dans une forme de gouvernement où l'opinion peut se substituer au droit comme au fait, où la violence et l'intimidation deviennent des outils prisés pour restreindre la diversité des points de vue et où les polémiques servent à jeter le discrédit sur toute production de connaissances. Et on peut rajouter les nombreuses pressions aussi, tout aussi nombreuses, sur tout ce qui peut avoir de près ou de loin aux identités de genre, sexualités diverses et autres menaces de drag queenisation de la société. Voilà. Ce courrier rappelle qu'à l'approche des élections municipales, les candidates et candidats ne peuvent plus se contenter de déclarations générales sur la culture et la liberté d'expression. Défendre les librairies, c'est défendre la démocratie. Cela suppose un positionnement clair face à la guerre idéologique en cours.
Un fasciste de merde.
673 fake news ont été propagées à la télé et à la radio française en 2025. C'est le résultat d'un bilan réalisé par l'OME, l'Observatoire des médias sur l'écologie. Il a été publié aujourd'hui. Selon ce consortium de 8 acteurs lancé début 2025, cela fait une moyenne de 13 fake news par semaine. En principale cible de ces news, les énergies renouvelables et les voitures électriques. Les pics de désinformation se sont concentrés d'ailleurs entre juin et juillet 2025, avec 133 et 139 cas chaque mois, le tout lié à la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'était la première canicule estivale et aussi le second vote sur les ZFE, les zones à faibles émissions. D'autres épisodes très forts de fake news ont été relevés au mois de mai et de septembre, lors du premier vote sur les ZFE et du discours de Donald Trump à l'ONU. Enfin, entre septembre et décembre, le nombre de cas a diminué en raison de l'absence de débat public majeur. Les médias les plus concernés, Roulement de tambour, Sud Radio, CNews, RMC et Europe 1, avec Sud Radio bien loin devant. Hein. La désinformation provient principalement d'invités. On invite des gens pour leur faire dire ça, mais il n'y a pas de contradiction en face. Ça, c'est 32% environ de ces fake news. Des invités politiques pour 24%, donc des représentants de partis. Et enfin, des journalistes pour 20%. Les narratifs les plus récurrents portent justement sur l'inefficacité et le coût des énergies renouvelables et sur les émissions des véhicules thermiques versus ceux électriques. À partir du mois de février de cette année, l'OME étendra d'ailleurs son suivi à la presse écrite, au magazine et à la publicité. Le lancement de ce nouveau volet aura, lui, lieu le 26 février au Théâtre de la Concorde.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Les grandes voix françaises du doublage passent à l'attaque contre l'IA. Il devait y avoir des extraits de Julia Roberts, mais je crois que j'ai raté mon montage. Je sais pas ce que je vous ai fait écouter. Bref, 8 comédiens portant les voix francophones de stars hollywoodiennes ou bien de célèbres personnages de fiction viennent de mettre en demeure deux entreprises qui proposent justement, sans leur accord, d'utiliser leur voix clonée par des IA pour leur faire dire n'importe quel texte. C'est Françoise Cadol qui a appris par le message d'un fan qu'elle ne connaissait pas qu'elle était au catalogue de sites payants d'IA qui proposent de faire prononcer des textes par toutes sortes de personnalités. Et elle a donc réagi immédiatement. Françoise Cadol, c'est en français la voix de Angelina Jolie, Sandra Bullock, Tilda Swinton ou bien Patricia Arquette. Elle agit immédiatement donc en expliquant « c'est un vol, tout simplement, on nous méprise, on nous néantise en utilisant nos voix sans que nous n'ayons jamais donné notre accord, alors que c'est notre métier ». Elle bénéficie donc, elle, d'une belle réputation dans le milieu et parmi son public, puisqu'il y a des fans de voix françaises. On les appelle d'ailleurs les gardiens des voix. « Nous avons décidé de monter au créneau pour faire bouger les choses », explique donc elle. Françoise Cadol fait partie de ces 8 comédiens et comédiennes qui ont, le 30 janvier, adressé des mises en demeure à 2 sociétés américaines qui ont donc cloné leur voix sans leur accord. Ces sociétés sont VoiceDub et Fish Audio. Les sites qui n'ont d'ailleurs pas pour l'instant répondu à Mediapart, hein, qui nous propose cet article, proposent donc de payer. Vous pouvez les payer et faire lire le texte de votre choix avec une voix tirée d'un large catalogue. Par exemple, vous pouvez utiliser la voix d'Emmanuel Macron ou le footballeur Kylian Mbappé, et donc aussi des voix françaises de célèbres acteurs, actrices ou personnages de fiction. C'est ma voix, mais sans émotion, sans aucune intention de jeu. C'est totalement linéaire, atone. Mais l'IA est un monstre qu'on nourrit continuellement et bientôt elle saura retranscrire les émotions. Voilà, si j'avais voulu, j'aurais donc pu faire lire cette citation par Bulma ou bien Julia Roberts, puisque c'est la même personne qui s'appelle Céline Montsara. Et c'est donc la voix française et aussi du personnage de Dory dans un film d'animation. J'imagine que vous voyez un peu le grain de voix dont on parle ici. Elle aussi donc fait partie de cette procédure, une action collective donc inédite et emblématique des combats que mènent depuis 3 ans les acteurs et actrices de doublage, avec une profession qui est particulièrement menacée par le développement à grande échelle de l'IA générative. Cette mobilisation regroupe donc des doubleurs et des doubleuses francophones, parmi donc les plus connus dont je viens de vous parler. Elle demande aux 2 entreprises américaines de retirer de leur plateforme tous les modèles de clonage qui exploitent leur voix sous 8 jours, et ils réclament aussi 20 000 euros de dommages et intérêts. S'il n'y avait pas de réponse des entreprises, une action en justice serait lancée. Pour l'instant, c'est simplement une mise en demeure. Et en plus d'ailleurs du retrait de ces voix clonées sans autorisation, l'avocat dit attendre une interdiction formelle de ces plateformes sur notre territoire, car ce sont des entreprises américaines qui font entrer justement sur un terrain extrêmement dangereux. Sur le papier d'ailleurs, la loi française est plutôt protectrice, hein, l'arsenal juridique est suffisant normalement pour protéger ces comédiens et comédiennes. En effet, la voix est une donnée personnelle et toute reproduction sans consentement est considérée donc comme une contrefaçon. Le code civil, le code pénal, mais aussi le RGPD, hein, Règlement Général de Protection des Données, là-dessus sont très clairs. Mais encore faudrait-il que ces textes soient respectés par des plateformes qui, elles, sont basées aux États-Unis. Ça fait déjà plusieurs années que les professionnels du doublage voient venir le danger. L'IA générative avance à grands pas pour imiter des voix, avec des résultats qui sont déjà jugés suffisants par certains studios de télé ou de cinéma, qui commencent à se passer d'ailleurs de ces doubleurs et doubleuses. En France, la filière pour l'instant regroupe environ 15 000 personnes, 5 000 comédiens, 2 500 auteurs-autrices et une centaine de studios avec les techniciens qui les font tourner. Céline Montsara, donc toujours la voix de Julia Roberts, explique attendre depuis longtemps que le ministère de la Culture se saisisse du sujet et les reçoive. Elle rappelle qu'elle est en fin de carrière, mais que même si ce métier ne vous quitte jamais vraiment, la situation est très inquiétante pour les jeunes gens dans toutes les professions artistiques. Puisqu'on parle des États-Unis, d'ailleurs, il y avait déjà eu une affaire en 2024, c'était Scarlett Johansson, l'actrice donc célèbre, avait fait retirer de ChatGPT une voix qui lui ressemblait un petit peu de trop près, enfin plus exactement une voix qui recopiait la voix du robot qu'elle incarnait dans le film Her, puisqu'elle faisait aussi une intelligence artificielle. C'était 10 ans plus tôt. L'automne dernier, Françoise Cadol, qui a aussi été la voix de Lara Croft, par exemple, dans les premiers jeux de Tomb Raider, a pour sa part eu la désagréable surprise de constater que l'IA générative avait été utilisée. pour lui faire prononcer des nouvelles phrases dans des versions remasterisées de certains épisodes du jeu. Donc il ne l'avait pas rappelé pour enregistrer les compléments. L'éditeur, d'ailleurs Aspyr du jeu, avait fait marche arrière suite à sa plainte. Elle se réjouit donc aujourd'hui du fort écho médiatique de l'initiative qu'elle vient de lancer avec ses collègues. Les médias, dit-elle, ont largement répondu présent. Nous agissons ensemble et cela montre que le sujet est bien compris. Et nous recevons beaucoup de messages. Le public, lui aussi, se sent méprisé, volé. J'ai de l'espoir, dit-elle. Bah, on espère que ça va aller aussi bien. En tout cas, d'autres sont beaucoup moins optimistes pour l'avenir du secteur. Parce que là, on parle des voix, mais c'est même possible aussi de refaire les visages des acteurs. On observe le tsunami de l'IA qui commence à s'abattre sur le secteur audiovisuel. Par exemple, en décembre, Walt Disney, donc le plus gros studio du monde, à qui appartiennent aussi Pixar, Marvel et Star Wars, vient de céder à OpenAI les droits de 200 de ses personnages pour les faire figurer pendant 3 ans sur une plateforme de création vidéo Sora. Donc si vous aviez sur Sora, vous pouvez faire vos propres vidéos avec les personnages de Disney. Voilà, donc plutôt du mauvais côté du rapport de force, il semblerait que les comédiens et comédiennes n'auront peut-être bientôt plus d'autre choix que d'essayer de négocier des accords financiers, eux aussi, pour céder les droits sur leur voix.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. Et d'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.